Samuel, au chapitre 9, 2 Samuel, chapitre 9, et je vais lire dans la version de la Bible du Semeur. David demanda, « Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül ?» J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, et on le fit venir auprès de David. Et le roi lui demanda, « Es-tu bien Tsiba ?» Il répondit, « C'est moi, ton serviteur. » Et puis le roi lui posa la question, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül ?» Je voudrais lui témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu. Et Tsiba lui répondit, « Oui, il existe encore un fils de Jonathan. Il a les deux jambes estropiées. »« Où vit-il ? » lui demanda le roi. Et Tsiba répondit, « Il vit dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodbar. » Et le roi envoya donc chercher l'envoya donc chercher à Lodbar dans la maison de Makir. Et lorsque Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela Mephibosheth, c'est bien moi pour te servir. Et David lui dit, n'aie aucune crainte, Mephibosheth, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur, par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Et quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Mephibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne maintenant au petit-fils de ton maître. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui. Et tu apporteras ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Mephibosheth, le fils de ton maître, c'est à ma table qu'il prendra tous les jours ses repas. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, lui a ordonné. Ainsi, Mephibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Tous ceux qui demeuraient chez Tsiba étaient au service de Mephibosheth. Comme il était estropié des deux pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Jusque-là, la lecture. Seigneur, que ta parole soit vivante au milieu de nous, que nous puissions la recevoir ce matin. Parle-nous et ouvre nos cœurs maintenant. Amen. Ces histoires que nous reprenons dimanche après dimanche, et celle-ci est connue puisque déjà notre frère du Carmel a prêché sur l'histoire de Mephibosheth il n'y a pas très longtemps, ces histoires nous aide à comprendre mieux qui est Dieu et comment nous pouvons servir Dieu. Elles ne sont pas là pour nous dire comment nous devrions faire, elles ne nous donnent pas des ordres, elles ne nous disent pas de faire exactement pareil, mais elles sont là pour nous montrer comment un homme de Dieu a servi son Seigneur et dans ce sens-là, comment il peut nous servir de modèle. La vie de David nous aide parce qu'il a mené une vie de prière, parce qu'il a mené une vie aussi consacrée à l'amour. Le récit d'aujourd'hui va nous aider à mieux comprendre comment je peux aimer autrui, comment je peux mettre l'amour en pratique. David a manifesté de l'amour envers un homme qui se sentait détestable et qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth, c'était le fils du meilleur ami de David, le fils de Jonathan, donc le petit-fils du roi Saül. Et cette histoire de Mephibosheth se décline en trois actes. Acte 1, Mephibosheth a 5 ans. Il a 5 ans quand il est au palais du roi, de son grand-père Saül, et qu'on apprend à la cour royale que le roi Saül et son fils Jonathan ont été tués à la guerre. Les Philistins ont remporté ce combat et tout le monde est paniqué à la cour du roi. Tout le monde est paniqué parce qu'ils se disent « Les Philistins vont maintenant poursuivre leur périple et arriver jusqu'à Jérusalem, jusqu'au palais royal et ils vont s'emparer de nous, ils vont nous exterminer. » Et si ce n'est pas les Philistins qui viennent, ce sera David, il aura certainement l'envie de se venger de Saül, de tous ses descendants. C'est la grande panique à bord. Tout le monde craint pour sa vie. Et vous savez, vous avez déjà vu ces images de réfugiés qui doivent tout à coup fuir parce que la guerre éclate dans un pays, ils prennent tout ce qu'ils peuvent emmener, ils se retrouvent sur les routes, ils s'en vont dans une destination inconnue. Eh bien, c'est la même chose qui se passe à ce moment-là. Tout le monde prend ce qu'il peut emmener avec lui, part sur les routes pour essayer d'échapper à ce qu'ils craignent comme étant un massacre à venir. La nourrice qui est là et qui s'occupe de Mephibosheth attrape le petit de 5 ans sous ses bras, part et malheureusement dans la précipitation le laisse tomber à terre. L'enfant se casse les deux chevilles vraisemblablement et les os ont de la peine plus tard à se ressouder. Et plus jamais cet enfant ne sera en mesure de marcher correctement. Il boite, il est handicapé. À cause de son handicap, parce qu'il vient aussi de cette famille qui vient de perdre la guerre, il semble qu'il n'aura plus aucune chance de parvenir un jour à la royauté, même s'il est le fils du prince. Et dès lors, emmené dans un petit village reculé au nord d'Israël, Lodébar, sa vie va se dérouler dans l'anonymat. Quasiment personne ne sait qu'il est un descendant du roi, et d'ailleurs, peut-être est-ce mieux pour lui qu'on ne le sache pas, pour qu'on ne vienne pas le tuer. Mais son infirmité le met aussi à l'écart. Et peut-être que lui-même cherchait aussi à se mettre à l'écart, parce qu'il savait qu'il était différent, et que bien souvent, on n'aime pas les gens qui sont différents. Il n'en pouvait rien. Il n'avait rien fait pour mériter sa situation. Il n'avait rien choisi. Et voilà qu'il se trouve pris dans un drame qui le dépasse. On peut se demander comment il a grandi. Quelle image il a eue de lui alors que tous ses amis le fuyaient à cause de sa différence. En fait, le texte ne nous dit rien de son adolescence. Mais on apprend que bien plus tard, il s'est marié, il a eu un enfant et il a malgré tout gardé une très piètre opinion de lui-même. Mephibosheth va se décrire comme un moins que rien, un raté, quelqu'un que tout le monde rejette. Il en vient même à se demander s'il a vraiment sa place sur la terre. Il utilise un mot qui est très dur à son égard. Il dit qu'il est comme un chien mort. Or, je vous promets que les chiens à l'époque, c'est des animaux qu'il ne fallait pas approcher. C'était des chiens sauvages, c'était carrément se rendre impur de toucher un chien. C'était injurieux en tout cas. On ne traitait jamais quelqu'un de chien. Le chien, c'est un animal qu'on n'approchait pas. Et quand il parle de lui, Mephibosheth dit « Je suis un chien ». Et il rajoute « un chien mort ». c'est dramatique. Il n'y a plus de vie chez lui. Il n'a plus envie d'entreprendre des projets, il n'y a plus d'espérance. Qu'est-ce que vaut encore sa vie ? On ne sait pas vraiment comment il a grandi, mais on peut imaginer que sa nourrice, celle qu'il avait emmenée quand il avait 5 ans et qu'il l'a lâchée, cette nourrice lui a peut-être raconté au coin du feu à Lodebar des histoires de son père, de son grand-père. Il a appris qu'il avait du sang royal dans les veines. Il a su qu'il avait tout perdu. Et peut-être que là-bas, cette communauté d'exilés a fait ce que font tous les exilés. Ils se sont racontés le passé, leur culture, les origines. Quand on n'est pas chez soi, on a envie de se souvenir de là où on était autrefois, d'où l'on vient. Et souvent, on enjolive même un peu la réalité. Et le passé devient un passé glorieux. On oublie tout ce qui a été moins bien. Sans doute que c'est dans un environnement un peu comme celui-là que Mephibosheth a grandi. Mais il a perdu tous les privilèges. Il a été humilié par la vie. Et peut-être qu'on lui a expliqué que si sa nourrice l'a lâché, c'est la faute à David. C'est bien à cause de David que tous ces événements sont arrivés. David est sans doute le méchant, celui par qui le malheur est là. Vous savez, quand on passe par des malheurs, on a souvent besoin de désigner un bouc émissaire, de trouver le méchant, celui qui est coupable de notre situation. En tout cas, pour Mephibosheth, il a grandi dans un monde qui lui semblait cruel. Et puis sa vie lui semble infiniment misérable. Acte 2, Mephibosheth est maintenant adulte. Il s'est donc marié, il a même un enfant, mais il continue à boiter. Il continue à boiter à cause de la chute qui est survenue dans son enfance. Et puis surtout, sa vie est boiteuse. Il reste profondément meurtri au fond de son âme. Un jour, il voit débarquer des émissaires du roi dans son village à Lodebar. Il pénètre dans la maison d'un riche bienfaiteur qui s'appelle Makir. Et chez ce riche bienfaiteur loge Mephibosheth et sa famille. On lui rapporte que le roi aimerait bien le rencontrer à Jérusalem. Jamais il n'avait rencontré le roi. Jamais il n'avait eu de contact avec lui. Et tout de suite, Mephibosheth se dit, mais que se passe-t-il ? Pourquoi le roi veut-il me voir ? Est-ce que ses agents secrets m'ont retrouvé tout à coup et veulent m'éliminer maintenant comme un potentiel prétendant au trône ? On le fait monter sur un âne, puisqu'il ne peut pas marcher, et on le conduit à Jérusalem. Mephibosheth ne donne pas cher de sa peau. Il se retrouve face au roi, il est complètement apeuré, il tombe à genoux devant le roi, il se prosterne devant lui, il manifeste du respect, il sait bien qu'il ne peut rien face au roi, que le roi d'un seul mot pourrait le faire tuer. Il a peur. Peut-être éprouve-t-il du ressentiment à l'égard de ce David, cause de tous ses soucis. Il a peur et cela se voit sur son visage. Alors qu'il est à genoux, David lui dit, mais il le regarde bien, il le regarde même dans les yeux. Et il lui dit, Mephibosheth. Vous savez, appeler quelqu'un par son nom, c'est un signe de respect. Mephibosheth est quelqu'un. C'est un être créé par Dieu. Il a de la valeur. Mephibosheth. Ce n'est pas un chien mort. Enfin, on s'intéresse à lui. Il n'est pas juste un jouet entre les mains des puissants. David, en nommant Mephibosheth, en l'appelant par son nom, lui témoigne du respect. Lui accorde de la dignité. Et Mephibosheth répond, je suis là pour te servir. Bien oui, il a toujours servi les autres, pas toujours de bon cœur. Il a été au service finalement de choses qui l'ont dépassé. Mais Mephibosheth est loin d'imaginer ce qui va se passer. Il est loin d'imaginer que David l'a fait venir à Jérusalem pour lui témoigner de l'amour, pour l'accueillir dans son palais. Il faut vous souvenir, il n'avait que 5 ans quand son père est mort. Il ignore absolument tout de l'amitié qui liait Jonathan à David. Il ne sait rien du pacte que Jonathan et David avaient conclu devant le Seigneur. Vous vous souvenez peut-être, quand David avait dû fuir le roi Saül, il avait vu encore à 2 reprises Jonathan, et ensemble ils avaient conclu une alliance par laquelle ils se soutiendraient, ils s'encourageraient, ils s'entraideraient. David avait même promis à Jonathan qu'il agirait envers lui avec la même fidélité que Dieu agissait à son égard. Rendez-vous compte de cette promesse. David a dit « J'agirai envers toi avec la même fidélité qui est celle de Dieu à mon égard. » C'est un engagement solennel. Les mots ont du poids. Ce n'est pas des paroles en l'air. Et la promesse de David ne concernait pas que Jonathan, mais concernait aussi toute la descendance de Jonathan. Même si le Seigneur allait éliminer un jour tous les ennemis de David, David n'oserait pas mettre la main sur la descendance de Jonathan. Et on a là déjà un signe qui nous conduit à voir qu'on doit aimer nos ennemis. La famille de Saül avait été ennemie. David n'a pas le droit, de par son serment, de s'en prendre à ceux qui ont été ses ennemis. Mephibosheth ignore tout de cette alliance. Et pourtant, déjà depuis son plus jeune âge, il est au bénéfice de cette alliance qui a été passée entre Jonathan et David. Lui ignore tout, mais Dieu savait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous pouvons être dans des situations parfois où nous ne voyons absolument pas, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et pourtant, nous sommes au bénéfice de la fidélité de Dieu. Mephibosheth, malgré tous les drames de sa vie, malgré le fait qu'il ait été reclus dans un village perdu d'Israël, malgré toutes les difficultés liées à son handicap, est au bénéfice d'une alliance qui ressemble à l'alliance que Dieu fait avec nous. Dieu connaissait le destin de cet homme. Dieu tenait sa vie entre ses mains. Et même si la vie de Mephibosheth semblait misérable, il était déjà au bénéfice de l'amour de Dieu. Dieu avait un projet d'amour pour lui, un projet qui allait se dérouler par la main de David. Quand David a pris ses fonctions royales, qu'il était couronné roi, il n'a pas agi de la même manière que le roi qui l'avait précédé, ni de la même manière que les rois alentours. Tout le monde peut observer qu'il est un roi différent. Et le chapitre 8, verset 15, nous dit qu'il agissait envers tout son peuple selon l'équité et la justice. David avait hérité d'un royaume qui était bien mal en point. Un royaume dans lequel régnait une suspicion généralisée due à la paranoïa de Saül. Saül avait empoisonné les relations à la cour. Tout était devenu détestable. Il n'y avait pas de justice dans le pays. Mais quand David prend les rênes du royaume, il établit l'équité et la justice. Et c'est d'ailleurs comme cela que devraient régner tous les gouvernants. Ils devraient régner avec équité et justice. Et l'on voit que souvent, beaucoup trop souvent, il manque l'équité et la justice chez les gouvernants. Et quand un peuple est victime d'injustice, quand les inégalités progressent, les dirigeants ne réussissent à se maintenir au pouvoir que par la force. David, lui, règne avec équité et justice, de la même manière que Dieu veut régner sur son peuple. Il est maintenant débarrassé de ses ennemis. Il est bien établi. et revient à sa mémoire le souvenir de cette promesse qu'il a faite à Jonathan. « J'agirai envers ta descendance avec la fidélité du Seigneur. » Il est prêt à agir non seulement avec fidélité et amour envers la descendance de Jonathan, mais il élargit même l'horizon en disant « J'agirai avec fidélité et amour envers toute la descendance de Saül. » David ne veut pas trahir l'engagement qu'il a pris. Tout comme Dieu a fait alliance avec son peuple et que Dieu tient ses promesses, David a fait une alliance et il veut tenir sa promesse. Il ne le fait pas juste par obligation, il le fait parce qu'il y a de l'amour en lui. L'amour déborde de sa vie. Et ce qui est remarquable, et j'aimerais m'arrêter un peu sur un mot tout spécial, le mot qui est utilisé pour dire l'amour ou la fidélité que David veut manifester maintenant envers Mephibosheth, ce mot-là, c'est le mot chesed en hébreu. Et ce mot n'a pas vraiment d'équivalent dans les langues européennes. L'idée centrale du mot chesed, c'est une idée de bonté, une bonté qui est fidèle, un attachement. Chesed, c'est la bonté de Dieu à notre égard. Mais c'est aussi la bonté qu'un être humain peut témoigner à l'égard d'un autre être humain. Dans le mot chesed, il y a une notion de solidité. Il y a quelque chose de consistant. L'amour chesed, c'est un amour qui a du poids. C'est un amour qui engage. C'est un amour qui teste aussi la fidélité. Comment traduire ce mot-là ? On n'a pas un seul mot qui permet de le traduire. Il faut lui ajouter un adjectif, peut-être dire « amour inébranlable » ou « amour loyal » ou « fidélité d'alliance ». C'est un amour dans lequel on retrouve de l'affection, du désir, de l'intimité, un peu comme ça peut être le cas entre des parents et des enfants. Les parents aiment leurs enfants d'un amour solide, sûr, qui va durer, où il y a de la fidélité. C'est peut-être le même amour qu'il peut y avoir entre fiancés. Peut-être un amour que l'on devrait pouvoir trouver chez des amis. Malheureusement, chez les amis, cette notion de stabilité, de permanence, de dépendance ou d'interdépendance, de crédibilité, c'est quelque chose qui manque. Et pourtant, s'il était possible d'avoir des amitiés qui soient des amitiés faites d'un amour chesed, d'un amour qui dure, d'un amour qui est solide. Cet amour-là est souvent présenté dans la Bible comme l'amour de Dieu. C'est comme cela que Dieu nous aime, d'un amour solide et qui dure, d'un amour fidèle. On va dire que c'est difficile pour nous d'aimer de cette manière-là. Et pourtant, Dieu aimerait que nous puissions aimer du même amour qu'il nous a aimés. Il aimerait que nous puissions aimer d'un amour solide, durable, fidèle. Eh bien, c'est de cet amour-là que David va aimer Mephibosheth. David regarde cet homme qui est prosterné là devant lui, à ses pieds, et lui dit « Mephibosheth ». Et il continue en lui faisant trois promesses. Il lui dit « Mephibosheth, je vais te rendre toutes les terres qui avaient appartenu à ton père Saül. Mephibosheth, je vais t'accorder un privilège qui a disparu depuis longtemps, c'est celui de pouvoir manger à la table du roi. Tu vas pouvoir manger constamment à ma table. » Et Mephibosheth, je vais pourvoir à tes besoins matériels. Je vais mettre à ton service l'ancien serviteur de ton grand-père, Tsiba. Lui, avec ses 15 enfants, ses 20 serviteurs, vont cultiver les terres que je te donne, vont prendre les récoltes et ça permettra que tu sois à l'aise, que tu vives bien. Je vais agir avec fidélité, avec chesed envers toi. Et David n'en est pas resté qu'au mot. On peut facilement dire « je vais faire du bien pour toi, je vais agir avec bonté » et cela ne se concrétise jamais dans des actes. Mais chez David, les mots se concrétisent par un engagement concret. Et un vrai amour est un amour qui se traduit toujours par des actes. Ce n'est pas un amour qui est juste lié à une émotion du moment. C'est un amour qui se vit dans la durée. Troisième acte. Mephibosheth est maintenant calomnié par le serviteur Tsiba, l'ancien serviteur de son grand-père. Désormais, Mephibosheth mange à la table du roi. Le roi l'accepte tel qu'il est, avec son handicap, avec sa particularité d'être un descendant de son ancien ennemi. Mephibosheth est aimé pour ce qu'il est, et puis il vit dans une atmosphère d'amour à la cour du roi. On pourrait se demander, est-ce que de vivre dans une telle atmosphère d'amour peut changer un homme? Est-ce que l'amour est capable d'amener des transformations chez les autres? J'aurais envie de répondre oui. J'aurais envie de dire oui, l'amour de Dieu nous transforme et l'amour que l'on peut porter à d'autres peut les transformer. Mais est-ce que cela se produit toujours? Est-ce que Mephibosheth guérit des blessures de son passé? Est-ce que désormais il parvient à se considérer comme un être digne qui a été créé à l'image de Dieu? Est-ce qu'il arrive à quitter le ressentiment qui est là et à sortir de son rôle de victime ou de cette catégorie de victime dans laquelle il s'était enfermé? On ne sait pas, mais peut-être qu'à un moment donné, il a pu imaginer que le roi l'avait fait venir à la cour pour mieux pouvoir le surveiller au cas où il aurait des envies de sédition ou de fomenter un coup d'État. Peut-être qu'il a pu imaginer que la décision de David de le faire venir à Jérusalem n'était qu'une manœuvre politique destinée à montrer combien David était généreux à l'égard de son peuple et de ses anciens adversaires. On ne le sait pas. Et toutes ces hypothèses peuvent être émises avec une certaine validité. Simplement, le narrateur du texte biblique ne nous dit rien. On ne sait pas comment Mephibosheth a évolué en bénéficiant d'autant d'amour de la part de David. Et peut-être que c'est intentionnel de la part du narrateur. Parce que l'amour que l'on peut accorder à d'autres, la fidélité que l'on peut manifester, peut transformer une vie, mais pas toujours. Il n'y a rien d'automatique, et je pense que nous ne devons pas être naïfs, il nous faut rester réalistes, et savoir qu'on peut parfois beaucoup donner d'amour et ne rien recevoir en retour. Vous savez, aimer comporte des risques. Certains vont vouloir chercher à profiter de notre générosité. D'autres vont pouvoir nous trahir. Et Jésus en a fait l'expérience, il a aimé, mais il a été trahi. Il continue d'aimer et il continue d'être trahi. En fait, la fin de l'histoire de Mephibosheth nous est racontée au chapitre 16 et 19 que vous pourrez lire chez vous. Et dans ces chapitres, deux récits s'opposent pour essayer de comprendre ce qu'est devenu Mephibosheth. Vous vous souvenez peut-être, et nous y reviendrons dans les dimanches à venir, que David, à un moment donné, était en difficulté. Il a dû laisser provisoirement le trône vacant à Jérusalem parce que son propre fils Absalom a fomenté un coup d'État. Et pendant la vacance du trône, alors qu'il doit s'enfuir, Tsiba s'approche de lui, vient à sa suite, cherche à le servir et lui raconte que Mephibosheth n'a pas quitté Jérusalem, n'a pas fui avec David parce que peut-être bien qu'il aimerait profiter de cette situation de vacance du trône pour prendre le pouvoir. En fait, Tsiba présente Mephibosheth comme un traître. David le croit. Et toutes les terres qu'il avait accordées à Mephibosheth, il les reprend pour les donner à Tsiba. Quelque temps plus tard, David rentre à Jérusalem, Mephibosheth s'approche de lui Il vient sur un âne. Et David s'aperçoit que Mephibosheth n'a pas même changé de vêtements depuis le jour où le trône était vacant. Il ne s'est même pas rasé. Visiblement, il a porté le deuil pendant tout ce temps. Et Mephibosheth raconte qu'il était victime d'un complot de Tsiba. Que Tsiba n'a même pas voulu lui donner un âne quand il aurait fallu fuir et aller avec David. Qui dit vrai dans cette histoire ? Deux variantes différentes, deux récits, celui de Tsiba, celui de Mephibosheth. Le récit de Mephibosheth semble crédible. Et pourtant, David refuse de trancher entre les deux. Il refuse de porter l'accusation entièrement contre Tsiba. Oui, il croit Mephibosheth. Il croit Mephibosheth qui dit qu'il a été trahi par Tsiba et lui accorde à nouveau sa confiance. Il continue de l'aimer solidement, d'un amour fidèle. Mephibosheth pourra continuer d'aller à la cour du roi, manger à la table du roi. David demeure fidèle à l'amour qu'il porte envers Mephibosheth. Et pour autant, il se refuse de condamner Tsiba. Pourquoi ? Simplement parce qu'il ne semble pas avoir toutes les preuves en main qui montrent, qui établissent la culpabilité de cet homme. Et du coup, il accorde une chance à Tsiba. Il prend un risque. Sans doute que Tsiba a calomnié, trahi Mephibosheth pour chercher à en tirer un avantage personnel. Mais n'étant pas sûr, au bénéfice du doute, David laisse la moitié des terres à Tsiba, reprend la moitié des terres pour les donner à Mephibosheth. Que nous dit cette histoire ? Elle nous dit que dans son amour, Dieu aussi nous laisse une chance. Malgré nos trahisons, malgré nos manquements, Dieu est toujours prêt à nous pardonner si nous sommes prêts à changer de vie, si nous sommes prêts à changer de comportement. Il est prêt à continuer de nous accorder sa confiance, comme David continue d'accorder sa confiance à Mephibosheth et à Tsiba. Il nous aime, Dieu nous aime, coûte que coûte. Il aimerait que nous puissions apprendre de cet amour-là, que nous puissions faire preuve de la même générosité envers les autres, que nous puissions accorder de la confiance, même à ceux qui ont démérité à un moment donné, mais qui sont prêts à le reconnaître. Dieu choisit de nous faire confiance. Dieu choisit de nous aimer durablement, même si on l'a trahi, même si nous l'avons rejeté. Et Dieu aimerait que cet amour qu'il nous accorde, nous puissions en faire bénéficier d'autres aussi. C'est cela l'Évangile. Manifester un amour qui est fidèle, durable, même envers des personnes qui ne l'ont pas mérité. Mais ce sont des personnes que Dieu aime pourtant. Alors j'aimerais terminer en disant, ouvrons les portes de notre cœur pour recevoir cet amour de Dieu. Oui, Dieu est toujours prêt à recommencer avec nous. Ouvrons les portes de notre cœur aussi pour témoigner de cet amour à d'autres. Ouvrons les portes de nos maisons pour accueillir, bénir, comme David a su ouvrir les portes de sa maison pour accueillir Mephibosheth. Amen. Seigneur, nous venons encore maintenant devant toi pour reconnaître que dans nos vies, nous avons aussi des points de fragilité, que nos parcours de vie ont pu être cabossés, chaotiques, qu'aujourd'hui peut-être nous boitons dans la vie à cause de ces circonstances du passé. Mais Seigneur, comme David a accueilli Mephibosheth, tu nous accueilles aussi à ta table. Tu nous considères avec dignité. Seigneur, ton regard est bienveillant envers nous. Et nous te remercions parce que nous avons de l'importance à tes yeux, quelle que soit notre vie, quel que soit ce que nous avons vécu. Seigneur, merci pour l'importance que nous avons à tes yeux. J'aimerais te prier que pour tous ceux qui, aujourd'hui encore, sont marqués par les événements du passé, tous ceux qui ont été rejetés, exclus de la vie, tous ceux que l'on a regardés d'une manière bizarre et qui aujourd'hui sont encore blessés, que tu viennes apporter non seulement ton amour, mais aussi ta guérison. Permets que tous les blessés puissent recevoir cet amour qui vient de toi, puissent l'accepter et que cet amour les guérisse. Je te prie, Seigneur, que nous puissions être accueillants vis-à-vis des autres et même vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal. Apprends-nous à aimer nos ennemis même, comme David a su aimer cette famille qui avait été ennemie à un moment donné. Seigneur, transforme-nous par la grâce de ton amour. Amen.